franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. En 1930, Sinclair Lewis fut le premier Américain à recevoir le prix Nobel de littérature. Récompense pour ses romans dépeignant la vulgarité affairiste et consumériste de la classe moyenne aisée américaine. Il épinglait sa bigoterie, il méquait son hypocrisie, quitte à verser de temps en temps dans la caricature ce que certains lui ont reproché. Or, l'un de ses livres vient d'être réédité en France, aux éditions de La Différence, et dans sa première traduction, traduction de Raymond Queneau, le titre, c'est « Impossible ici ». Et il s'agit d'un roman noir écrit en 1935, un roman prophétique, estime Pierre de Gasquet dans le supplément « Week-end des Échos ». Qualifié d'effroyablement contemporain par la presse anglo-saxonne, ce roman conte l'histoire de l'ascension fulgurante d'un démagogue hors pair, un certain Buzz Winthrop, leader populiste très charismatique qui prend le pouvoir aux États-Unis. Il fait un tabac auprès des mineurs affamés, auprès des fermiers ruinés et des ouvriers au chômage. Leurs mains se levaient devant lui comme une troupe d'oiseaux effarouchés à la lueur des torches. Se réclamant des vraies valeurs traditionnelles américaines, Buzz Winthrop balaye littéralement Franklin Roosevelt et remporte l'élection de 1936. Il promet alors de restaurer la grandeur de l'Amérique, puis très vite il laisse libre cours à ses pulsions autocratiques. Il nomme des banquiers à son cabinet, ordonne l'invasion du Mexique et expédie ses opposants dans des camps d'internement. Le titre du livre donc, « Impossible ici, it can happen here », un cauchemar politique imaginé par l'écrivain Sinclair Lewis il y a plus de 80 ans. Né de l'urgence d'écrire face à la montée du totalitarisme et de l'antisémitisme, cette satire, explique mon confrère des Échos, n'a sans doute pas la puissance littéraire de 1984 ou du meilleur des mondes. N'empêche, elle prend aujourd'hui une résonance particulière, tant le parcours de Buzz Winthrop évoque celui de Donald Trump. D'ailleurs, l'édition américaine du livre est à l'heure actuelle épuisée sur les sites de commerce en ligne.
Donald Trump, qui est donc officiellement depuis hier le 45e président des États-Unis.
On le retrouve en photo dans quasiment tous les journaux ce matin. Le point levé dans l'Ardennais. Donald Trump prend le pouvoir. Pouce levé dans le courrier Picard. Bienvenue dans l'heure Trump. Main levée. Dans West France et la Dépêche du Midi, Donald Trump, l'Amérique d'abord. Trump investit la Maison Blanche, titre de son côté la Nouvelle République. Tandis que l'écho de la Haute-Vienne évoque des lendemains chargés de craintes et de fait, cette élection continue d'inquiéter. Ainsi qu'en témoigne également le titre du Monde, Trump ou la fin de l'ordre américain. Récit de la cérémonie d'investiture dans toute la presse. Il a prêté serment à midi, heure de Washington, sur la Bible et celle de Lincoln. Que tenait dans la main sa femme, une cérémonie marquée par la tonalité guerrière de ses propos, le discours d'intronisation le plus radical que l'on ait jamais entendu, estiment différents experts. Cérémonie marquée aussi par de violentes échauffourées dans les rues de la capitale fédérale, sachant que c'est surtout aujourd'hui que la mobilisation anti-Trump s'annonce massive, explique Yannick Halimi dans les colonnes du Parisien. Une manifestation est organisée par le mouvement Women's March, la marche pour la défense du droit des femmes. Parole d'une militante, Barbara, petite soixantaine, qui défilera en famille. Les femmes ont été insultées par ce président, dit-elle. Et toutes, on se sent concernées par ces projets de remise en cause de la contraception et de l'avortement. Mais à travers le droit des femmes, c'est les droits de l'homme que l'on défend pour libération. Trump est bien aujourd'hui le président de deux Amériques. Pas de réconciliation suite au discours d'hier. Et d'ailleurs, ainsi que le relève Philippe Gély dans le Figaro, la traditionnelle démonstration de civisme et de cohésion nationale qui d'ordinaire prévaut en pareilles circonstances a été altérée par le boycottage de 60 élus démocrates. Il y a donc ceux qui continuent de ruminer leur défaite. Face à ceux qui exultent de l'avoir emporté, tel Kenny Lee, ce supporter rencontré par Laure Manneville, je suis persuadé, assure-t-il, que Trump a été envoyé par Dieu pour réparer ce pays et pour lui rendre sa grandeur. Obama n'a cessé de s'excuser dans le monde entier. Résultat, désormais, plus personne ne nous respecte. Trump envoyé par Dieu et Obama qui n'a cessé de jouer contre son camp et contre les intérêts nationaux. C'est le genre de propos qu'a tenu également une républicaine invitée de la chaîne de télé BFM hier. Elle s'appelle Evelyne Josselin. Elle est l'auteur d'un livre sur Trump. Et comme le rapporte le Huffington Post, elle était en plateau pour commenter la cérémonie.
Obama, franchement, il fait partie des gens qui détestent l'Amérique.
Je remets en cause son patriotisme et sa dévotion à l'église qu'il fréquentait. Je pense qu'il était en désaccord avec lui-même sur beaucoup de choses.
C'est-à-dire ?
Je pense qu'il était plus musulman dans son cœur que chrétien. Tout ce qu'Obama a écrit à l'université, comment il est devenu président de la Harvard Law Review, tout ça, c'est sous-scellé. On n'a pas le droit de le savoir.
Obama antipatriote, Obama davantage musulman que chrétien, et des dossiers scellés, on nous cache quelque chose. Suite à ces déclarations dignes des pires complotistes, la dame a été conduite hors du plateau de la télé d'information. À propos d'ailleurs de théorie du complot, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de l'excellente revue Topo. L'actu dessinée pour les moins de 20 ans en kiosque, le numéro 3, avec donc une BD expliquant les ressorts du succès de certaines théories parfaitement fumeuses. Obama musulman, l'attentat de Charlie Hebdo n'a pas existé, la Terre n'est pas ronde mais plate, l'homme n'a pas marché sur la Lune, nos gouvernants sont des reptiliens. C'est éclairant, c'est passionnant, même quand on a plus de 20 ans. Et puis pour revenir d'un mot sur le discours de Donald Trump, Alexandre Falipou du Huffington Post a relevé qu'il avait cité mot pour mot l'une des phrases de Bane, le méchant dans Batman de Christopher Nolan. Aujourd'hui, on ne transfère pas le pouvoir d'une administration à une autre ou d'un parti à un autre, nous transférons le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain, pour le rendre à vous. Le peuple, c'est l'une des expressions de Ben, l'adversaire du chevalier noir. Lui aussi, il veut rendre le pouvoir au peuple, mais ce n'est pas certain qu'il en ait l'occasion. Portrait d'Alexandre Jardin, en dernière page de Libération. Ce matin, l'écrivain a décidé de se présenter à l'élection présidentielle, persuadé qu'il a rendez-vous avec l'histoire. Il estime qu'il peut obtenir les 500 signatures nécessaires, et si finalement il ne les obtient pas, pas de ralliement à l'horizon. À l'horizon, il annonce qu'il votera blanc.
Mais aujourd'hui, ce sont d'autres candidats qui font la une, Frédéric.
Ceux de la primaire à gauche, dont le premier tour a lieu demain. Dans la presse régionale, vous trouverez le mode d'emploi pour voter. Quant aux Parisiens, aujourd'hui le Parisien, il passe les programmes des candidats au banc d'essai en matière d'économie, d'éducation ou de réforme des institutions. Leurs projets diffèrent fortement. Et pour Frédéric Vizard qui signe l'édito, la primaire est tout de même un exercice magique. Grâce à elle, la droite dite la plus bête du monde a retrouvé, outre un candidat unique à la présidentielle, sa crédibilité. Quant à celle de la gauche, annoncée comme une guerre de barricades entre clans d'un parti en ruine, elle a accouché de projets originaux et d'un vrai débat sur l'avenir de la société française. Reste à savoir maintenant quelle sera la participation, combien d'électeurs et quel sera le poids du vote utile. Question que pose notamment Libération ce matin, Libé, pour qui le PS joue ici sa survie. Dès lors, à tous les candidats, je ne serais trop conseillé pour finir la lecture de l'interview que Leïla Slimani donne ce mois-ci à l'Officiel. C'est un mensuel de mode, mais c'est de littérature qui parle l'auteur de chansons douces pour lequel elle a obtenu le Goncourt. Elle parle du pouvoir des mots. Je viens d'un pays et d'une civilisation arabo-musulmane où pendant longtemps les femmes ne pouvaient pas écrire, pas conduire, pas divorcer. C'est une révolution copernicienne pour moi de dire que je peux. Et si les femmes n'ont pas eu davantage de prix littéraires, c'est qu'elles n'avaient pas le temps pour écrire, mais il y en aura de plus en plus, assure-t-elle. Question du magazine. Le matin du Goncourt, vous êtes allé vous acheter une robe. Pourquoi ? Réponse de l'écrivaine. Je me suis dit comme ça, si j'ai le Goncourt, je la mets. Et sinon, j'aurai au moins une consolation. Les candidats à la primaire savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Courir s'acheter une robe pour se consoler si jamais ils se prennent une veste.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.